Alors, il a bien fallu que je me rende à l'évidence en préparant la prédication de ce dimanche, tout au long de la semaine. Le passage qu'on va lire aujourd'hui, c'est un passage qui doit vous inciter à vous méfier de votre pasteur. À vous méfier de votre pasteur. Du coup, quelque part, je suis un petit peu soulagé de voir qu'il y a quelques absents aujourd'hui. Ça ne leur donnera pas trop d'idées négatives à mon sujet. Mais c'est vrai, hein, pourtant. Dans ce passage, vous allez le voir, Jésus veut pointer l'influence néfaste que les responsables religieux sont susceptibles d'avoir sur les croyants. Évidemment, le but, vous allez voir, c'est pas de condamner sans aucune distinction toute fonction ecclésiastique, c'est-à-dire toute fonction dans l'Église, comme les pasteurs, les anciens ou les diacres, etc., puisque c'est le Nouveau Testament lui-même qui établit ces rôles dans l'Église. Le but, c'est plutôt d'inciter les gens, vous et moi compris, d'inciter les gens à la prudence et au discernement vis-à-vis des personnes qui occupent ces rôles et vis-à-vis de la façon dont ces personnes exercent leurs fonctions. Je ne pense pas que vous me contredirez si je vous dis que on a tous tendance, c'est peut-être une caractéristique de notre nature humaine, on a tous tendance à nous représenter certaines personnes dans la vie comme des modèles que nous admirons, et cela est vrai dans tous les domaines qui nous passionnent, dans toutes les disciplines qui nous intéressent, que ce soit le sport, la musique, la gastronomie, la littérature, la politique. Nous faisons partie de cette espèce de culture de la célébrité qui fait que chacun de nous, nous élevons les gens que nous préférons sur des piédestaux, le pluriel de piédestal, et nous recevons assez volontiers leur influence. Nous nous plaçons assez volontiers sous l'influence de ces gens que nous admirons et que nous élevons sur des piédestaux. Or, ce mécanisme opère aussi dans le domaine de la foi. Il existe toute une palette d'auteurs chrétiens à succès, des théologiens ou des prédicateurs connus, populaires, qui ont réussi à engranger des dizaines de milliers de likes sur leur page Facebook et autant de visites sur leur blog. Et parmi ces voix chrétiennes, eh ben, chacun de nous, en bon consommateur que nous sommes, nous pouvons choisir nos héros préférés. Nous pouvons nous abreuver de leurs enseignements et de leur influence. Vous savez, c'est en accès libre sur Internet. Vous pouvez écouter tout ce que vous voulez, lire tout ce que vous voulez, liker tout ce que vous voulez sur Facebook, retweeter tout ce que vous voulez sur Twitter, etc., etc. Et vous me direz, d'accord, où est le mal? Où est le problème? Eh bien, le mal se trouve, écoutez bien, dans le risque qu'il y a de soumettre notre conscience à l'emprise d'un être humain au détriment d'un attachement authentique et bienfaisant à Jésus-Christ. Vous vous dites que ça a l'air un peu compliqué. Mais la leçon de ce passage, vous allez le voir, est finalement assez simple. C'est la suivante. Mon cher ami, ne te fie à aucun responsable religieux aveuglément. Ne te fie à aucun responsable religieux aveuglément. Ni à des auteurs à succès, même les théologiens censés être les plus solides et les plus réformés, etc., ni même à vos propres pasteurs. Ne te fie pas à ton pasteur aveuglément. Méfiez-vous de moi. Et c'est Jésus lui-même qui nous montre précisément dans ce passage à quoi nous devons faire attention. Alors on va lire, il s'agit de l'évangile selon Matthieu, chapitre 23. On va lire les versets 1 à 12. Dans le contexte de ce passage, il y a déjà c'est un contexte qui est déjà polémique. On a vu que Jésus est arrivé à Jérusalem et que dès qu'il est arrivé à Jérusalem, il y rencontre l'opposition des responsables religieux de Jérusalem, qui sont représentés principalement par les pharisiens. Vous allez voir qu'ici va être question de nouveau des pharisiens, associés à des gens qui sont appelés les scribes. Les scribes sont des gens dont le métier consistait à recopier la parole de Dieu, recopier les Écritures saintes. Donc c'était censé être des spécialistes, n'est-ce pas, des Écritures saintes, et les pharisiens aussi sont censés être des spécialistes de la religion juive. Alors, lisons ce texte, chapitre 23, versets 1 à 12. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit: « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Donc les phylactères, c'est un accessoire vestimentaire qui est encore porté par les juifs très pratiquants. Ça consiste en des espèces de bandes de cuir ou de tissu sur lesquelles sont inscrits les commandements de Dieu. Et donc on les porte sur soi, d'accord ? Donc les phylactères des pharisiens étaient plus grands que les phylactères des autres. Verset 6, ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. C'était la lecture de la parole de Dieu. On va regarder tout ça plus en détail, mais d'abord prions. Seigneur, merci pour ta parole. Te prions maintenant de bénir ces instants de réflexion, de méditation sur ta parole, afin que tu utilises, Seigneur, cette étude, cette prédication pour nous édifier, Seigneur. Peut-être nous corriger à certains égards, mais en tout cas nous faire grandir dans notre foi. Amen. Ne te fie à aucun responsable religieux aveuglément. C'est la leçon générale de ce passage. J'espère vous en convaincre. En tout cas, la première chose que ce passage va nous faire comprendre, versets 1 à 3, ça peut paraître comme une évidence, mais pourtant ça mérite d'être rappelé. La parole de Dieu est supérieure en autorité à n'importe quel responsable religieux. Donc qu'est-ce qui se passe ? Jésus est arrivé à Jérusalem, je le disais tout à l'heure, il est en train de se confronter à l'opposition des responsables religieux de son époque, notamment à ceux qui pensent être les dépositaires de la loi de Dieu et les garants de la moralité du peuple, à savoir ces fameux scribes et ces fameux pharisiens. Et Jésus entame ici, au chapitre 23, un discours qui va se révéler par la suite, mais on n'a pas lu, mais on le verra la prochaine fois qu'on reprend ce texte, un discours qui va se révéler être assez virulent à l'encontre de ces responsables religieux. C'est le fameux passage, vous verrez, où Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens !» Et il va enchaîner comme ça cette accusation, cette dénonciation des scribes et des pharisiens et de leur hypocrisie. Mais la première chose qu'il dit à leur sujet, ici, au début du chapitre 23, c'est quelque chose qui est en fait positif. Il dit « Ils sont assis dans la chair de Moïse », c'est-à-dire qu'ils ont une position qui mérite d'être honorée, une position honorable, et donc qu'il faut, puisqu'ils sont assis dans la chair de Moïse, il faut faire et observer ce qu'ils vous diront, dit Jésus. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que ces scribes et ces pharisiens sont effectivement les dépositaires de la parole de Dieu, et à ce titre, ce sont eux, à cette époque-là, qui ont la charge et la fonction de transmettre la parole de Dieu au peuple. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils représentent en quelque sorte Moïse et les écrits de Moïse, c'est-à-dire la loi des Juifs, la loi de Dieu. En fait, à cette époque-là, si on y réfléchit, il n'y avait pas d'autre moyen de connaître la parole de Dieu, sinon à travers le service de ces scribes et de ces pharisiens, parce que les imprimantes, ça n'existait pas, les MP3, les disques durs, tous les moyens que nous avons, nous, aujourd'hui, les applications sur les smartphones, tous les moyens que nous avons, nous, de diffuser la parole de Dieu n'existaient pas. Enfin, ils existaient, ils s'appelaient les scribes et les pharisiens. Et donc, forcément, il n'y avait pas d'autre moyen de connaître la parole de Dieu, sinon à travers leur service. Et donc, dans la mesure où les scribes et les pharisiens ont cette charge, cette fonction de transmettre la parole de Dieu, il faut, d'après Jésus, faire et observer ce qu'ils disent. Mais il ne faut pas agir selon leurs œuvres. Pourquoi ? Parce que, ce qui est sous-entendu par Jésus ici, c'est que leurs œuvres ne sont pas fidèles à la parole de Dieu dont ils sont pourtant les dépositaires. Jésus est donc en train de faire une distinction ici qui est très importante pour nous aujourd'hui. Une distinction très importante entre la parole de Dieu, qui est confiée donc à ceux qui occupent la chair de Moïse, et l'interprétation ou l'application pratique de cette parole qui est issue quant à elle de l'explication et du modèle de vie des responsables religieux. Et en l'occurrence, les responsables religieux de l'époque trahissent la parole de Dieu par leur interprétation et leur pratique, d'accord ? Par leur vie. Ils trahissent la parole de Dieu. Ils sont dépositaires de la parole de Dieu, mais ça ne les empêche pas de la trahir. Et on verra tout à l'heure comment, plus précisément, ils trahissent la parole de Dieu. Mais dans un premier temps, ce passage souligne au moins ce premier point très important. La parole de Dieu est supérieure en autorité à n'importe quel responsable religieux. C'était vrai à l'époque de Jésus, c'est vrai encore aujourd'hui. Imaginez un homme ou une femme politique qui serait très admiré, très populaire, et qui enfreindrait la loi un jour. Voilà, je sais que ça n'arrive jamais, mais essayez d'imaginer un homme ou une femme politique qui enfreindrait la loi. Alors on serait tenté de faire deux choses dans ce cas-là. D'un côté, si c'est quelqu'un que vous admirez beaucoup, vous seriez tenté de penser qu'il y aurait une sorte d'exception juridique pour quelqu'un d'important et de puissant comme cette personne, n'est-ce pas ? Peut-être que cette personne est déjà ministre ou déjà président de la République, donc petite exception juridique. Ce serait une façon de dire, bah, finalement, la loi est subordonnée à celui qui gouverne. Et donc, si cette personne qui gouverne ne respecte pas la loi elle-même, bon, allez, c'est pas grave, on ferme les yeux, on va la laisser quand même nous gouverner, parce que c'est quand même plus important, cette personne est quand même plus importante qu'une obéissance scrupuleuse à la loi du pays. Ça serait une façon de réagir. D'un autre côté, certains, notamment ceux qui n'aiment pas cette personnalité politique, seraient tentés de dire, eh ben voilà, ces politiques sont tous pourris. D'ailleurs, la politique, c'est pourri. Le gouvernement, c'est pourri. Les lois, c'est pourri. Vive l'anarchie. D'accord ? On jette tout le bébé avec l'eau du bain. Mais la réalité, ce serait quoi ? Ce serait que la loi doit être distinguée de ceux qui la font appliquer. Même le président est soumis à la loi et il est en principe redevable au système judiciaire. Personne n'est au-dessus de la loi, c'est ce qu'on répète souvent, n'est-ce pas ? Et il est important, du coup, de ne pas confondre la loi avec les responsables politiques, ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi. Et de même, ce texte nous fait comprendre ici qu'il est important à nous, aujourd'hui encore, de distinguer la parole de Dieu de ceux qui sont chargés de la faire appliquer, c'est-à-dire de tout pasteur, de tout prédicateur, de tout théologien, etc. Alors on est parfois tenté, n'est-ce pas, de confondre le statut de la parole de Dieu avec le statut de tel ou tel auteur chrétien célèbre. Et le problème qui en résulte, c'est que quand cet auteur trahit la parole de Dieu, ben soit on est déjà captif de son influence, et on s'imagine que si un tel le dit, si ce grand auteur réformé le dit, c'est que Dieu le dit. Et on lui fait confiance, et on le croit. Soit à l'inverse, on est tellement dégoûté par ce qu'il dit, qu'on rejette tout en bloc, y compris la parole authentique de Dieu. C'est pour ça que les personnes qui ont des responsabilités dans l'Église, quand elles chutent, c'est particulièrement grave parce qu'elles deviennent une occasion de chute pour d'autres. Elles scandalisent les croyants, n'est-ce pas ? C'est le verbe scandaliser veut dire chuter, faire chuter. Alors honnêtement, si un jour, moi ou Jonas, on perd la boule complètement et on décide d'épouser trois autres femmes et de vider le livret A, de se partager le pactole pour aller s'acheter des Lamborghini. Enfin, je sais pas ce que t'achèterais, moi, une Lamborghini, personnellement. J'espère qu'en retour, vous ne rejetterez ni le Seigneur, ni l'Évangile, ni tout ce que moi ou Jonas, on aura pu vous dire au fil de notre ministère, tout ce qu'on aura pu vous dire, en tout cas, qui était fidèle à la parole de Dieu. J'espère aussi que vous serez suffisamment convaincus de l'autorité supérieure de la parole de Dieu et que vous connaîtrez assez la parole de Dieu pour me renvoyer et pour renvoyer Jonas aussi sur le champ et de l'Église, je veux dire, d'annuler notre ministère et la possibilité que nous avons d'exercer notre ministère et d'ailleurs aussi de faire en sorte, par tous les moyens nécessaires, que nous ne puissions plus jamais exercer de responsabilité dans l'Église de Jésus-Christ. Mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, vous comprenez ? La parole de Dieu est supérieure en autorité à n'importe quel responsable religieux. Et il est important pour chacun de nous de connaître, par conséquent, la parole de Dieu, de la recevoir, la parole de Dieu, de savoir discerner la parole de Dieu partout où elle nous est prétendument enseignée. Y compris ici, chaque dimanche, à 17h jusqu'à 18h30. D'accord ? Il est important que vous, individuellement, moi aussi bien sûr, nous sachions discerner la parole de Dieu partout où elle est prétendument enseigner. Mais ce passage va plus loin encore pour nous inciter à la prudence et au discernement, donc vis-à-vis des personnes qui ont des responsabilités dans l'Église. Et la deuxième chose que ce passage veut nous faire comprendre, en effet, versets 4 à 7 maintenant, c'est que tout être humain est susceptible de s'égarer et d'égarer les autres. Alors là, Jésus va entrer un peu plus dans le détail par rapport à ce qu'il reproche aux scribes et aux pharisiens. Il dit d'abord que ces responsables religieux mettent des fardeaux pesants sur les épaules des gens, mais sans aider les gens à les porter, ces fardeaux, vous comprenez ? Sans vouloir les remuer eux-mêmes du petit doigt. Et ensuite, Jésus dit que la motivation profonde de ces responsables, finalement, est très centrée sur eux-mêmes. Ils font ça pour être vus des hommes, etc. Ce que le passage est en train de nous montrer ici, c'est que ces responsables religieux, qui connaissent donc la parole de Dieu, ils sont dépositaires des Écritures saintes, ce sont des professionnels des Écritures, si j'ose dire, eh bien, dans l'exercice de leur fonction, ils détournent la parole de Dieu de l'effet qu'elle est censée produire. Pourquoi est-ce qu'on peut dire cela ? Parce que la parole de Dieu, la Sainte Bible, Ancien et Nouveau Testament, aujourd'hui, lorsque nous l'enseignons fidèlement, eh bien, c'est vrai qu'elle place un fardeau sur les épaules des gens. Un fardeau pesant même. C'est ce qu'on appelle la loi de Dieu, la loi d'un Dieu trois fois saint qui, en fait, place ses exigences sous les yeux des hommes, devant les hommes. Et ce sont des exigences extraordinaires puisqu'elles proviennent d'un Dieu trois fois saint dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc oui, la Bible, lorsqu'elle est prêchée fidèlement, elle place un fardeau pesant sur les épaules des hommes. Mais quand elle est enseignée fidèlement, la parole de Dieu met aussi devant les hommes non seulement sa loi, mais aussi sa grâce. La grâce de Dieu, sa bonté et sa miséricorde. En fait, on découvre que tout en élevant la loi de Dieu, la Bible élève aussi son pardon et sa rédemption, de sorte que l'effet de la parole de Dieu, lorsqu'elle est enseignée fidèlement, toujours, est de détourner notre attention de nous-mêmes et de nos propres efforts et de nos propres mérites et en fait de notre propre incapacité à accomplir la loi de Dieu. Elle détourne notre attention de cela et elle place toute notre attention et toute notre espérance, au contraire, sur Dieu, et sur ses promesses, et sur l'œuvre de son Messie, le Seigneur Jésus-Christ, dont la venue est promise dans l'Ancien Testament, et qui est bel et bien venu pour accomplir tout ce que Dieu avait promis dans ses promesses de grâce, dans son alliance de grâce. C'est sa personne, la personne de Jésus-Christ, ses efforts à lui, ses mérites à lui, qui ont acquis notre salut, et c'est en raison de la grâce de Dieu en Jésus-Christ que le fardeau que Dieu place sur nos épaules devient léger. Et nos motivations ne sont plus centrées sur nous-mêmes. Nous n'agissons plus pour être vus des hommes. Mais nos motivations sont centrées sur Dieu. Nous obéissons parce que nous avons le désir d'exprimer ainsi notre reconnaissance, de plaire à celui qui nous a rachetés à un grand prix. Et c'est pour ça qu'on peut dire que les scribes et les pharisiens, dans l'exercice de leur fonction, vous voyez, ils connaissent très bien la parole de Dieu, mais ils la détournent de l'effet qu'elle est censée produire. En plaçant le fardeau sur les épaules des gens, mais sans les aider à le porter. En annonçant fidèlement et scrupuleusement la loi de Dieu, mais pas un mot sur sa grâce. Et en cherchant l'attention des hommes, en cherchant à montrer combien eux sont capables de faire ce que Dieu demande, et en s'enorgueillissant. Et ce problème que Jésus identifie chez ses responsables religieux, c'est un problème courant depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, même avant cette époque-là. Pourquoi ? Parce que tout responsable religieux est un être humain pécheur, c'est-à-dire faillible, et donc tout être humain est susceptible de s'égarer et d'égarer les autres. Vous comprenez ? En fait, les pharisiens, on peut les regarder et dire « les pharisiens, je ne les supporte pas ». Mais comme disait Jonas tout à l'heure, nous péchons aussi par pharisianisme. Parce que nous aussi, notre cœur est orgueilleux. Et nous aussi, on aimerait se dire, mais oui, mais j'arrive à faire ce que Dieu me demande. Mais aussi, nous péchons par désobéissance. Celui qui vit comme il veut, en se fichant complètement de la loi de Dieu. Dans les deux cas, nous sommes pécheurs. Tout être humain est susceptible de s'égarer, d'égarer les autres. Je me souviens très bien un jour d'avoir assisté à un culte dans une église censée être solide dans sa théologie, une église censée être rigoureusement attachée aux saintes écritures. Et le pasteur a fait une prédication ce jour-là, je m'en souviens bien, sur le rôle et les devoirs des hommes dans le foyer. Il y avait peut-être une dizaine de points sur comment être un père de famille fidèle et un mari aimant dans son foyer devant Dieu. Et tous ces points étaient très justes. Mais il s'est passé un truc bizarre, parce qu'au fur et à mesure de cette prédication, j'ai senti comme un poids de plus en plus lourd s'accumuler sur mes épaules. Et après la conclusion du message, j'étais profondément déprimé et découragé. J'étais rongé par la culpabilité d'être un mauvais père et un mauvais mari. Tout ce que j'avais entendu était pourtant indéniablement biblique. Mais j'étais tellement loin de correspondre à ce tableau du chef de famille fidèle. Tout ce que cette prédication m'a donné envie de faire, c'était de me jeter sous un train. Ce message, vous voyez, avait lié un fardeau pesant sur mes épaules, sans me montrer à aucun moment comment je pouvais le porter. Ce qui s'est passé dans cette prédication, c'est que la loi de Dieu a été prêchée sans sa grâce, tout simplement. Ou pour le dire encore autrement, la parole de Dieu a été prêchée sans Christ. Et ça, c'est un comble, quand on pense que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu incarnée, n'est-ce pas ? Et en fait, on peut assister à ce genre de phénomène dans toutes les familles d'église, dans toutes les sensibilités théologiques qui existent. Les responsables d'église, et ça peut arriver ici aussi, mes amis, les responsables d'église peuvent facilement se retrouver à enseigner et à faire des choses qui sont en soi justes. Mais si toutes ces bonnes œuvres sont promues indépendamment de Christ, tout ce que c'est du moralisme. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire du moralisme. Vous pouvez trouver le même moralisme dans la synagogue d'à côté, ou dans la mosquée, ou au temple bouddhique. Il y a du moralisme évangélique, comme il y a d'ailleurs du moralisme libéral et progressiste. Et l'effet du moralisme, il est double. D'une part, je le mentionnais tout à l'heure, le moralisme nourrit l'orgueil des gens qui pensent être assez bons et assez disciplinés, et qui constatent qu'ils arrivent plutôt bien à donner, en tout cas, l'apparence d'obéir aux règles et d'être fidèle à Dieu. Donc de ce côté-là, le moralisme va nourrir l'orgueil de ce type de personne. Mais d'autre part, le moralisme va nourrir, chez les autres, le désespoir des gens qui, au contraire des hypocrites et des orgueilleux, eux ont conscience de leur faiblesse et de leur incapacité à faire le bien. Là aussi, le moralisme aboutit à une impasse, l'impasse du désespoir. Je suis incapable de faire ce qu'on me demande. Dans les deux cas, le moralisme met l'attention des gens sur eux-mêmes, n'est-ce pas ? Sur leur propre capacité, sur leur propre performance. Et ce passage nous met en garde ici contre cette façon de détourner la parole de Dieu et contre l'effet néfaste que l'on produit quand on détourne ainsi la parole de Dieu de l'effet au contraire bienfaisant qu'elle est censée produire. Lorsque la loi et la grâce sont prêchées ensemble, lorsque la parole de Dieu est prêchée et que Christ est annoncé comme étant son centre, lui, sa personne et son œuvre de grâce. Et encore une fois, moi-même, et Jonas aussi, enfin je ne veux pas trop m'avancer pour Jonas, je ne sais pas, mais en tout cas je peux vous l'assurer pour moi-même, et probablement n'importe quel autre pasteur que vous pourriez avoir un jour, nous sommes susceptibles de nous égarer nous-mêmes et d'égarer les autres. C'est vrai, Jonas ? Ok, c'est bon. Vous savez, parfois, je suis convaincu d'avoir prêché des prédications qui étaient peut-être à 10% fidèles à l'intention de Dieu et peut-être 90% à côté de la plaque. Non pas que je recherche délibérément à mal faire, hein. Honnêtement, je cherche à bien faire. Je pense que Jonas aussi cherche à bien faire. Mais parce que nous sommes tous les deux et tout être humain avec nous, pécheurs et faillibles. Et oui, c'est vrai, je suis tenté de faire mes actions pour être vu des hommes, comme les pharisiens. Oui, j'aime impressionner les gens, j'aime être respecté, j'aime être salué, j'aime être reconnu en public. Ça m'est déjà arrivé une fois, je prenais le bus et une jeune fille est venue vers moi, mais vous êtes Alex Saran ? Enfin, ça c'était avant que je sois pasteur, mais c'était pour d'autres raisons. Mais oui, attendez, c'est cool, j'aime ça, mais c'est pas bien. C'est pas bien, c'est parce que je suis pécheur. Et orgueilleux. Méfiez-vous de moi, donc. Méfiez-vous de votre pasteur, dans un sens, en tout cas, méfiez-vous de lui. Ne succombez pas à la tentation d'élever qui que ce soit sur un piédestal, car ce serait nous aider à faire concurrence à Christ. Et c'est ce que notre chair, C-H-A-I-R, recherche en fait, à faire concurrence à Christ, à cause de notre nature pécheresse. Et justement, la fin de ce passage confirme cet avertissement. La troisième et dernière chose que le texte veut nous faire comprendre, versets 8 à 12 maintenant, c'est que celui qui seul est vraiment digne de nous conduire, c'est Jésus-Christ. Jésus, donc, il a dénoncé ce qui n'allait pas chez les scribes et les pharisiens, en tout cas une partie de ce qui n'allait pas, il va développer un peu plus dans la suite du chapitre, on verra ça une autre fois. Et maintenant, Jésus tire une application pratique de ce qu'il vient de dire pour son auditoire. Donc, il est en train de parler aux foules et à ses disciples, hein, c'est ce que le texte nous dit au verset 1. Il leur fait comprendre que ces responsables religieux cherchent à faire l'objet d'un respect et d'un honneur qui ne sont dus qu'à Dieu et à son Messie. Évidemment, Jésus n'interdit pas absolument ici d'employer des titres pour s'adresser à des gens qui sont en position d'autorité. Il n'interdit pas de dire « monsieur » à son professeur, hein, les enfants qui sont à l'école, au collège. Jésus ne vous interdit pas de dire « monsieur », »,« monsieur le prof de techno », etc. « Monsieur » qui veut dire étymologiquement « mon Seigneur hein. ». Jésus n'interdit pas d'employer des titres comme ça. Ce que Jésus veut dire, c'est qu'il ne faut pas reconnaître à un être humain une dignité ou un statut qui ne serait que celle ou celui de Dieu et de son Messie. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que les scribes et les pharisiens, justement, eux, ils tendaient à usurper, délibérément ou non d'ailleurs, mais ils tendaient en tout cas, dans les faits, à usurper la place de Dieu et de son Messie. Et Jésus nous met en garde ici contre l'influence démesurée qu'un être humain pourrait avoir sur les consciences d'autres êtres humains. C'était une des choses qui dérangeait beaucoup les réformateurs au XVIe siècle. Cette influence que des êtres humains, en l'occurrence à l'époque le clergé, en tout cas une partie du clergé, l'influence qu'ils avaient, l'emprise qu'ils avaient sur la conscience d'un autre être humain et de plusieurs autres êtres humains. Comme j'ai dit, il ne suffit pas d'enlever les mots « rabbi »,« maître »,« père », »,« directeur », cardinal et ainsi de suite de son vocabulaire pour mettre en pratique ce que Jésus nous enseigne ici. Non, le sens est vraiment de ne pas élever un homme à un statut qui n'appartient pas aux hommes. C'est ça le sens. Alors qu'on l'appelle père ou qu'on l'appelle pas père, le but, c'est pas une question de vocabulaire, vous comprenez, le problème n'est pas là. Le problème c'est celui d'élever un homme à un statut qui n'appartient pas aux hommes. Et donc ici Jésus rappelle encore une fois peut-être quelque chose qui devrait nous paraître comme une évidence, mais il établit une seule distinction entre tous les êtres personnels qui existent dans l'univers. Vous avez d'un côté Dieu avec son Messie, et de l'autre côté vous avez tous les autres. Nous y compris. Les cardinaux, les papes, les évêques, les pasteurs, les anciens, les diacres et les laïcs sont tous d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez Dieu et son Messie. Verset 8, vous êtes tous frères. Ce rappel est utile parce que dès qu'un être humain est placé en situation d'honneur et d'autorité, il a tendance à en abuser. C'est ce que j'ai constaté chez mes enfants. Lorsque papa et maman sont pas là, et en fait même quand on est là, parmi nos enfants, il y a les plus puissants qui tendent à s'imposer sur les moins puissants. C'est-à-dire que les plus grands, hein, ont tendance à s'approprier les prérogatives de papa et de maman. Bon, je l'ai fait moi aussi, hein, parce que moi aussi j'ai eu un petit frère et j'étais en position d'honneur et d'autorité sur lui quelque part, et j'en ai abusé, d'accord ? Et une des choses qu'on doit répéter à nos enfants assez souvent, c'est d'un côté, aux plus grands, qu'ils n'ont pas la même autorité que nous les parents sur les plus jeunes, non, arrête de t'y croire. Tu n'as pas l'autorité de papa sur ton petit frère ou ta petite sœur. Et ce qu'on doit répéter aux plus petits, aux plus jeunes, c'est qu'ils ne doivent pas leur obéissance aux plus grands comme ils la doivent à nous, les parents. Non, non, si ton grand frère te dit de te jeter par la fenêtre, tu n'es pas obligé de lui obéir. Tu ne lui dois pas ton obéissance comme tu la dois à tes parents. Heureusement, on ne te demandera jamais de te jeter par la fenêtre. Et de la même façon, Jésus rappelle ici aux pasteurs et aux responsables dans l'Église qui ne sont pas les gourous de l'Église, qui peuvent s'attendre à ce que tout le monde les suive aveuglément. Et Jésus rappelle aux croyants dans l'Église qu'ils ne doivent leur allégeance complète qu'à Dieu et à son Messie. Vous voyez ? Jésus ici s'occupe de ceux qui sont en position d'honneur et d'autorité et à ceux qui sont soumis à la fonction de ces gens-là. Et dans les deux cas, Jésus leur rappelle une évidence, ou en tout cas quelque chose qui devrait être une évidence. C'est un rappel extrêmement important parce que justement, dans cette culture de la célébrité, qu'est-ce qu'on constate autour de nous ? On constate qu'il y a cette tendance chez les êtres humains qui fait que dès qu'on a trouvé notre héros, notre modèle, cette personne que nous admirons et que nous voulons suivre et imiter, et ben nous tendons à lui vouer une allégeance démesurée. Bon, il y a un terme technique pour ça, ça s'appelle l'idolâtrie. Nous devenons, vis-à-vis de ces gens-là qui sont nos modèles, nos exemples, nos héros, nous devenons des groupies, des militants, des promoteurs de la réputation de cette personne, parfois même des défenseurs aveugles de la personne. Et ça, c'est vrai même dans l'Église. Le résultat, c'est quoi ? C'est que nous risquons de nous retrouver à promouvoir la pensée d'un homme plutôt que la pensée de Dieu et à défendre la gloire d'un responsable religieux plutôt que la gloire de Christ. Et honnêtement, quand on regarde un peu, ne serait-ce que dans le paysage évangélique, on peut voir qu'il y a un certain nombre de mouvements et même d'églises qui fonctionnent honnêtement sur la base d'un culte de la personnalité. Bon, je sais que c'est emblématique, c'est symbolique, mais on ne devrait pas dire l'église d'Alex. L'église, tu vas à quelle église ? Je vais à l'église de Saran, du pasteur Saran. Non, ce n'est pas l'église du pasteur Saran. C'est l'église de Jésus-Christ où Alex exerce la fonction de pasteur. Bon, il y a un côté un peu inévitable, n'est-ce pas ? C'est naturel de dire les choses comme ça. Mais comme on devrait faire attention, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on devrait faire attention ? Est-ce que on n'élève pas nos responsables sur un piédestal au point de leur vouer une allégeance démesurée qui n'appartient en fait qu'à Dieu ? Le plus grave, c'est qu'en vouant une allégeance démesurée à un responsable religieux plutôt qu'à Jésus-Christ, nous risquons en effet de soumettre notre conscience à l'emprise de quelqu'un qui ne pourra jamais faire pour nous ce que Jésus a fait et continue de faire pour nous. Quand Jésus dit au verset 10, « Un seul est votre directeur, c'est le Christ », il sous-entend que Jésus est le seul qui soit vraiment digne de nous diriger, le seul qui soit vraiment digne d'être appelé directeur, avec un D majuscule au sens le plus fort du terme. Et il sous-entend que Jésus, le Messie, nous dirige d'une manière complètement différente des scribes et des pharisiens, et même différente de n'importe quel autre être humain. Vous voyez, je disais tout à l'heure, Jésus, c'est celui qui rend notre fardeau léger. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a porté lui-même, notre fardeau. Il l'a porté, ce fardeau, sur la croix. Jésus est ce bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez, le bon berger, le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Mes amis, je ne pourrai jamais donner ma vie pour vous. C'est pas que je vous aime pas, mais je ne peux pas donner ma vie en rançon pour vous délivrer de vos péchés. C'est impossible. Ce serait gaspiller ma vie que de faire ça, parce que ça n'effectuerait rien. Mais Jésus, le bon pasteur, le bon berger, le bon directeur, le roi serviteur, a donné sa vie en rançon pour nous délivrer de nos péchés. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est monté auprès du Père, il siège à sa droite et il plaide en notre faveur perpétuellement. On est en sécurité avec Jésus-Christ. Mais avec moi, vous n'êtes pas en sécurité, ni avec Jonas. Je suis désolé, je brise un mythe peut-être, mais ni avec n'importe quel autre être humain. Jésus est ce plus grand parmi nous qui a été notre serviteur, comme il dit dans ce passage. Jésus est celui qui s'est abaissé par excellence en mourant à notre place sur la croix et qui a été par conséquent élevé par sa résurrection et par son ascension. Tout ça au profit de ceux qui s'attachent à lui par la foi. Ce que Jésus a fait pour les croyants et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour les croyants, personne d'autre ne pourra jamais le faire. Et tant que nous reconnaîtrons à d'autres à d'autres êtres humains une dignité ou un honneur qui n'appartiennent qu'à Dieu et à son Messie, bah, tant que nous ferons cela, nous serons en train de porter atteinte à la puissance de l'Évangile. Tout ça pour dire quoi ? Il faut que je conclue, il est tard. Tout ça pour dire, ne te fie à aucun responsable religieux aveuglément. Ne te fie à aucun responsable religieux aveuglément. Veille à ne pas soumettre ta conscience à l'emprise d'un être humain au détriment d'un attachement authentique et bienfaisant à Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans ce passage. La parole de Dieu est supérieure en autorité à n'importe quel responsable religieux. Souviens-toi deuxièmement que tout être humain est susceptible de s'égarer et d'égarer les autres. Et enfin, troisièmement, celui qui seul est vraiment digne de nous conduire, c'est Jésus-Christ. Et il l'a prouvé par sa mort et sa résurrection pour nous. Bien sûr, comme je le disais en introduction, ce passage ne nous dit pas que nous devons supprimer toutes les fonctions dans l'Église qui impliquent l'exercice d'une autorité et donc un certain rapport de confiance. Non, ça ne veut pas dire ça. Ce passage ne veut pas dire que nous ne devons pas respecter les responsables de l'Église ou que nous ne devons pas nous fier à eux dans un certain sens ou que nous ne devons pas les suivre ni leur obéir et leur être soumis. Et j'emploie ces termes à dessein parce que ce sont des termes bibliques que l'auteur de l'Épître aux Hébreux emploie en disant « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis ». Des termes forts, n'est-ce pas ? Donc manifestement, ça ne veut pas dire qu'on annule tout ça. Ce que ce passage implique principalement, c'est que nous devons faire preuve donc de prudence et de discernement de façon à ce que nous maintenions toujours dans notre vie et que vous mainteniez toujours dans votre vie d'abord, mais ensuite dans la vie de notre Église, eh bien, que nous maintenions la primauté de Jésus-Christ qui vraiment est seul et le chef de l'Église et son Sauveur. Amen. On va prier. Merci notre Dieu, car à travers ta parole, des fois tu remets les pendules à l'heure, tout simplement. Tu nous ramènes à la réalité, tu nous rappelles les évidences. Je prie que ces évidences que nous avons tendance à oublier à cause de notre nature pécheresse, je prie que ces évidences restent claires dans notre esprit, qu'elles s'ancrent profondément en nous, afin que nous puissions vivre dans la fidélité à ta parole et pour ta seule gloire. Amen.